have a dream.
Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi pour l'émission de Parole Politicale.
Bonjour à toutes et tous, il est 11h et bienvenue à encore une autre émission de Parole Politicale. Tous les jeudis de 11h à midi sur Fréquence Mistral. Moi je m'appelle Jake et je serai avec vous pendant une heure pour découvrir cette fois-ci l'élection présidentielle américaine de 2016. Donc, dans cette émission, on va traiter surtout les candidatures des deux grands partis majeurs, les démocrates et les républicains. Et on va aussi avoir de la musique accompagnée avec des artistes tels que Prince, Jill Scott-Heron et James Brown qui vont faire face. Donc, tout d'abord, pour se remettre dans le sujet, c'est les candidatures pour devenir président des États-Unis en 2016 et ils ont été ouvertes par les médias il y a environ 20 mois avant l'élection qui sera, elle, le 8 novembre 2016. Donc c'est donc pas très longtemps. À la fin d'une élection, un candidat sera nommé la 45e président ou présidente des États-Unis et remplacera le président actuel, président Barack Obama. Il y a en tout 4 candidats majeurs qui vont contester cette élection, même 5 maintenant parce qu'il y a eu un autre candidat qui a mis sa nom dans le chapeau, mais seulement 2 sont considérés vraiment de pouvoir remporter cette nomination. C'est-à-dire Hillary Clinton, la nominée des démocrates, et Donald Trump, le nominé des Républicains. Comme j'avais dit, il y avait aussi des partis minoritaires qui ont aussi mis devant leur candidat, mais ils sont beaucoup moins probables à pouvoir remporter l'élection, vu la petite taille et aussi le fait qu'ils peuvent pas entrer leur nom dans toutes les États, comme les Républicains ou les Démocrates. Donc, c'est-à-dire les Greens, qui nomine Jill Stein et aussi Gary Johnson qui est l'élu nominé de la part de la Libertarian Party. Mais il faut demander tout d'abord comment est-on arrivé à cette étape.
Fun is gone. Way things look, how can I be here alone? I got them out and how do. Thinking about me and you, what on earth are we gonna do? Effect. I'm only telling you people my belief because I am head of spree already. I got them out and how do. Thinking about me and you, what on earth are we gonna do? no money to pay my rent. My baby needs some clothes, she needs some shoes. People's out don't know what I'm gonna do.
Eisenhower Blues de J.B. Lenoir, qui lui-même est connu pour son hit célèbre de 1955, Mama, Talk to Your Daughter. Mais il joue aussi un rôle très important dans l'histoire des blues, dû à son engagement politique, ce qui tombe bien pour cette émission. Après la sortie de 1954, Parrot Records lui a forcé de renommer la chanson Taxpaying Blues, parce qu'ils ont trouvé que c'était trop controversé de mettre le nom du président Eisenhower dans le nom du chanson. Donc on va maintenant se lancer sur le début de la course pour les démocrates ou les républicains. Il faut revenir tout au début, avant même les nominations des deux grands partis, où la course pour la nomination a commencé. Donc, depuis la défaite en 2008 face à Barack Obama, il y avait Hillary Clinton qui a dû attendre 8 ans avant de pouvoir se remettre en étant prétendante pour devenir la première présidente des États-Unis. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est très connu de la part de la population américaine parce que tout d'abord, elle était la première dame quand son mari, Bill Clinton, était président de 1993 à 2001. Mais elle a aussi été très compétente elle-même ayant sa vie en étant secrétaire d'État pour les États-Unis à les côtés de son vainqueur dans l'élection de 2008, Barack Obama. Donc elle était secrétaire d'État d'États-Unis de 2009 à 2013. Donc c'était vraiment sans surprise qu'elle lancera officiellement sa campagne pour devenir présidente le 12 avril 2015 et elle était tout d'abord considérée comme le candidat présomptif des démocrates parce qu'il y avait des personnes quasi inconnues au niveau national telles que Bernie Sanders et Martin O'Malley qui lui contestent aussi. Du côté des républicains, par contre, il y avait beaucoup plus de candidats. Il y avait même 17, et c'était dans les premiers quelques mois qu'il y avait aussi une famille politique très connue qui a mené la course pour la nomination républicaine cette fois-ci. Donc, c'était Jeb Bush, qui était le frère du 43e président George W. Bush, et le fils du 41e président George H. W. Bush, qui lui aussi voulait devenir l'homme la plus puissant des États-Unis. Donc, depuis de nombreuses années dans la politique, il a récolté des amis dans des dents et dents d'or de la politique, ce qui lui permet enfin de financer une campagne d'élection, qui lui-même coûte des millions de dollars. En dehors des politiciens tels que Jeb, il y a Chris Christie aussi et Rick Santorum. Il y avait d'autres candidats qui émergent dans les secteurs de vie autres que la politique, tels que le ex-neurochirurgien Ben Carson, par exemple, ou encore le star de l'émission télé-réalité The Apprentice et entrepreneur Donald Trump, qui annonce son candidature en juin 2015. Funky.
Nasty. Hey, listen to the man.
Well, Godfather.
Payback.
Oh, bloody.
People, people, we gotta get over before we go under. No. People, people, we gotta get over before we go under. Hey, country, you didn't say what you meant. You just changed a brand new funky president. Stock market going up, jobs going down. It ain't no fun.
world. Get sexy, sexy, get funky and dancing. Love me, baby, love me nice. Don't make it once, but can you make it twice? I like it. People, people, we gotta get over before we go under.
Voilà, Funky President de James Brown, sorti en 1974. Donc, la chanson President, Funky President, plutôt, c'est une chanson de funk par James Brown. Et elle fait référence au président Gerald Ford, qui succède le président Nixon. Donc, c'est vraiment un hommage à le président Gerald Ford, mais aussi à Martin Luther King, dont on a parlé de la semaine dernière, dans l'émission numéro 3, si vous voulez regarder en ligne sur Fréquence Mistral. Donc maintenant, on va se concentrer sur comment fonctionnent ces élections. Donc, tout d'abord, c'est des élections primaires, c'est-à-dire qu'il y a 56 contests primaires, et à chacun des membres des deux partis va pouvoir voter pour leur candidat préféré dans les électeurs. Et qu'on les vote de chaque État ou territoire des États-Unis à voter, les délégués qui appartiennent à cette vote seront accordés aux États selon leur pourcentage de vote. Donc, c'est-à-dire pour gagner la nomination, il faut avoir 2383 délégués pour les nominations démocrates et 1237 pour gagner la nomination républicaine. Il y a aussi des dates très importantes dans le calendrier des primaires. Donc, il commence le 4 février en Iowa et ça va jusqu'en juin. Et chacun des votes aura lieu. Entre ces dates, chacun des votes aura lieu. Et il y a des jours certains comme Super Tuesday, le Super Mardi ou Super Tuesday Partie 2 qui vont avoir lieu plusieurs votes de plusieurs États. Donc ça va être des jours très importants pour pouvoir gagner de l'élan de la part des candidats pour finalement remporter la nomination de la partie.
Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral, les jeudis de 11h à midi, pour l'émission de Parole Politicale.
Alors, dans les jours avant la primaire de Iowa, donc la première primaire, le 4 février 2016, il y a de nombreux candidats tels que Donald Trump, Bernie Sanders et Ben Carson qui vont émerger dans les votes et qui vont devenir de plus en plus populaires avec les électeurs. Donc, tout d'abord, il y a Carson qui va être très apprécié. Tout d'abord parce qu'il a commencé dans la pauvreté de Detroit avec seulement sa mère avec lui et qui lui-même a finalement réussi à devenir neurochirurgien. Donc c'est une histoire qui tombe bien avec la public américain. C'est d'une sorte un conte de fées et ça lui permet de gagner ou de participer même au plus grand débat. Pour aider sa compétitivité avec les autres candidats, de rester dans la tête des électeurs, etc., etc. Donc Trump pour son part, lui, il a adopté une rhétorique très politiquement incorrecte, comme ses commentaires sur la Mexique, sur John McCain, ou encore l'interdiction temporaire des musulmans dans les États-Unis. Donc, c'est ces actes qui lui mènera à perdre beaucoup de ses sponsors tels que NBC ou NASCAR. Mais malgré cela, il a pu utiliser une narration très simple qui touche beaucoup des Américains qui craignent l'immigration illégale, une crise économique ou du terrorisme de la part des républicains. Il y avait aussi la dernière des grandes surprises, bien sûr, c'était Bernie Sanders, qui lui était cette fois-ci des côtés des démocrates. Donc c'est un socialiste qui lui est sénateur pour l'État de Vermont depuis 2007. Lui, au contraire de Trump et Carson, il a eu de l'expérience politique. Donc il était sénateur pour l'État de Vermont, mais tant que la population a perdu confiance dans les politiciens, Sanders lui-même, il ne représente pas vraiment cet establishment. C'est plutôt quelqu'un qui est attractif pour les électeurs, surtout les jeunes étudiants, parce qu'il garde ses valeurs et il ne changera pas son côté politique sur des issues juste pour gagner. Pour sa gagne personnelle, on va dire. Donc, il envoie un message anticapitaliste qui fait du fait de l'extrême richesse ou de pauvreté de la population américaine. Donc, on a ces trois candidats qui vont émerger. Et vers la fin de 2015, avant ce primaire en Iowa, on voit six candidats du côté des républicains qui semblent avoir pris la majorité des votes et devient les plus probables de représenter les républicains lors des élections générales. C'est-à-dire, ces personnes sont Trump, Carson, Marco Rubio aussi, Fiorina, Bush, donc Jeb Bush et Ted Cruz. Et comme vous avez, si vous avez suivi un peu plus tard, Kasich, lui, ne figure que dans le top 10, mais loin derrière les autres. À l'inverse, du côté des démocrates, c'est surtout en course des deux candidats, Hillary Clinton et Bernie Sanders, avec la troisième, Martin O'Malley, qui lui est loin derrière ces deux autres.
In 1844, the Democrats were split. The three nominees for the presidential candidate were Martin Van Buren, a former president and an abolitionist, James Buchanan, a moderate, Louis Cass, a general and expansionist. Severe, he held few people dear. His own
James K. Polk avec une chanson par le groupe rock alternatif They Might Be Giants sur le président des États-Unis du même nom. Donc, on va maintenant parler de la prolongation de la course des élections, c'est-à-dire le début des primaires. Donc, avec les primaires de Iowa, on voit bien l'émergence de Ted Cruz de la part des républicains qui, lui, malgré les productions qu'il est mené par 8 points, il bat Donald Trump dans la première primaire. Donc c'est un résultat qui a vu beaucoup de criticisme, surtout de la part de Trump, qui lui juge Cruz d'avoir annoncé les retirances de Ben Carson du primaire avant que les votes ont été annoncés. Donc, étant donné que c'était une fausse nouvelle, Trump considère que Cruz a volé la primaire de Iowa. Donc, c'est un des événements qui va commencer des longs arguments entre les républicains, non seulement dans les débats, mais aussi sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter. Donc, revenons, les républicains, l'establishment, c'est-à-dire eux, ils supportent Jeb Bush, mais ils cherchent aussi un candidat à supporter pour éviter la nomination de Trump, qui, lui, ne représente pas le parti républicain, les valeurs républicaines de fondamentaux. Donc, c'est la vote anti-Trump qui va alors commencer à être partagée entre Cruz, et Marco Rubio, qui lui est d'origine latino. Donc, ça c'est un des éléments qui mène à la victoire de Trump dans les trois prochaines primaires, dans New Hampshire, South Carolina et Nevada. C'est le fait que les autres ne peuvent pas se rassembler derrière un des candidats, alors le vote est partagé entre eux, et c'est de là que Trump, il va prendre les victoires de suite à suite. Du côté des démocrates, par contre, le primaire est fortement contesté entre Sanders et Clinton. Donc, de plus que Clinton, elle a beaucoup de support avant les premières primaires, où beaucoup de la population supporte ce qu'elle représente. Donc, ça rend Iowa, la première des primaires, encore plus important pour Sanders, parce que après, il sait que Clinton va remporter les prochaines contests qui vont suivre. Mais Clinton, finalement, elle gagne par 0,2% du vote, ce qui lui permet de prendre beaucoup d'élan et de remporter 8 des premières 10 primaires.
What the hell is going on?
Parole politique. Les jeudis de 11h à midi avec Jake, seulement sur Fréquence Mistral.
I think it's the best thing he's got going.
I think he's a lovely guy. I think he's a lovely guy.
This could be the greatest of all time.
I think it's going to be big.
Yeah! Oh. We have to find out what's going on.
Alors, maintenant on va se lancer parce que tout au cours de les nominations, il y a des grandes discussions qui vont faire face dans les débats qui sont organisés par la télévision américaine pour pouvoir aider d'une sorte les électeurs à décider et entre les différentes prétendants pour la nomination. Donc, comme on avait dit, il y a eu de nombreux débats et des côtés des démocrates. Il n'y en avait que deux candidats durant des larges périodes du processus. Et donc, c'est alors plutôt un tête-à-tête entre Sanders et Clinton qui s'est formé. Donc, je voulais vite donner quelques exemples des issues qui étaient discutées. Cela, c'était dans le débat de Brooklyn. Donc, c'était le support de fracturation hydraulique par Clinton durant son période avec Obama, ce qui était dangereux pour l'environnement, et c'était attaqué par Sanders. Il y avait aussi le manque de support par Clinton pour la législation d'augmentation du SMIC à $15 par heure, ce qui est aussi une des points très importants pour Sanders qu'il élève durant les débats. Et bien sûr, les discussions par rapport à Wall Street, donc c'est le secteur de banque à New York. Et Sanders accuse Clinton d'avoir fait de nombreux discours. Chaque discours payé 225 000 $ pour quelques heures de discussion par des entreprises telles que Goldman Sachs. Ce que Sanders considère comme un manque de transparence de la part de Clinton, que Clinton a des intérêts dans les banques, qu'elle va aider ses amis dans le secteur de banque à pouvoir gagner de l'argent. Donc, il considère que Clinton n'est pas vraiment une présidente pour la peuple, mais plutôt pour certains individus qui cherchent à augmenter leur profit. Il faut dire aussi que Clinton a aussi pris quelques coups à Sanders, parce que Sanders lui avait jugé non qualifié pour être présidente. Mais il va revenir dessus cela, vu que Clinton va encore gagner de l'élan pour devenir la nomination. Donc, c'est pas très bien d'attaquer le candidat de ton côté si c'est sûr qu'elle va gagner la nomination. Mais on va voir ça plus tard. Dans le débat républicain, à l'inverse, c'est des débats qui sont beaucoup plus couverture par la part de la média, parce qu'ils sont très personnels d'une fait. Donc il y avait beaucoup d'appels de mentards envers Ted Cruz, non seulement pour ce qu'il avait fait en Iowa avec Ben Carson, mais aussi pour certaines statistiques qui sont enlevées de sa part. Il avait aussi fait une allusion à des valeurs des New Yorkers, parce que Donald Trump, lui, il vient de New York, mais on va voir que l'attaque terroriste de 9/11 à New York, c'est une facteur très important dans ce débat. Donc, Donald, il enlève que les New Yorkers, ils ont des valeurs très très bien parce qu'ils ont dû reconstruire les cités après ces attentats le 9 du 11. Et il y a aussi eu des batailles d'insultes entre plusieurs candidats, notamment entre Cruz et Trump. Donc c'est une chose qui va revenir parce que c'est les deux candidats qui sont les plus populaires par les électeurs, et ça va être entre ces deux vraiment pour chercher la nomination. Alors, on va maintenant passer une chanson de la part de Johnny Horton, c'est Young Abe Lincoln.
In his bare feet, but they didn't know that one fine day that he would rule this USA and be the best leader in all the land. Yes, young Abe Lincoln, make a tall, tall man. Young Abe Lincoln, make a tall, tall man.
Young Abe Lincoln, make a tall, tall man.
Now he was admitted to the lawyer's bar. People seeked his help from near and far. He could talk a country mile in an old courtroom, make a
tent, finally won with the U.S. Grant. He heard both sides of the battle cry, hated to see those soldiers die. He hated to fight his own south land. Yes, young Abe Lincoln made a tall, tall man.
Young Abe Lincoln made a tall, tall man.
Yes, young Abe Lincoln made a tall.
Alors, maintenant, on va passer à l'émergence des favoris de la part des républicains et aussi des démocrates. Donc, tout d'abord, il y avait l'émergence de Ted Cruz qui, lui, commence à devenir un des candidats le plus populaire avec le public, comme j'avais dit d'avant, et qui lui donne une alternative très intéressante, plus conservatrice que Donald Trump. Et donc, il va remporter la première vote de Iowa pour cette fête. On va aussi voir la disparition de Ben Carson. On avait dit que c'était quelqu'un qui était très très populaire aussi, lui, avec les Américains, vu d'où il venait. Mais finalement, il a montré un petit peu de manque de savoir-faire dans la politique étrangère. Et donc, c'est de cette fête qu'il a pas réussi. C'était, on va dire, parce qu'il avait beaucoup d'expérience dans le parti neurochirurgien, mais ce qui était très très important, qu'il avait pas fait de l'expérience politique entre guillemets, mais on voit ici que son expérience politique, ça lui manque un peu. Donc il faut avoir un équilibre entre les deux. Donc, il était pas tout courant que les pays baltes, par exemple, étaient membres de NATO, par exemple. Donc, on va voir lui qui va disparaître de l'image des élections. Après les résultats de South Carolina, il ne reste plus que Trump, Cruz, Kasich, Carson, qui lui est toujours là, mais vu les financements, il va pas rester longtemps, et aussi Rubio. Donc, le grand choc, c'était vraiment la sortie de le favori de l'establishment républicain, Jeb Bush, qui se retire de la compétition avec un manque de support et de financement pour continuer son poursuite de la nomination républicaine. Donc, Jeb Bush, il a dépensé le plus d'argent dans tous les autres candidats, c'est-à-dire dans les commerciales télévision, sur des posters. Donc il a dépensé en tout plus de 138 millions de dollars, mais c'était vraiment un manque de personnalité pour être compétitif avec les candidats beaucoup plus expressifs tels que Donald Trump. Et Donald Trump, il a aussi l'insulté pas mal de temps et dilué le message de Jeb Bush. Donc, Jeb, il était loin d'être le préféré des républicains et ils ont choisi un autre candidat. On a dit que c'était Ted Cruz, mais lui non plus, il n'est pas très aimé par les candidats de fondamentaux des républicains. Alors, donc, on a vu l'émergence de Trump parce que notre autre candidat, aucun autre candidat, pardon, n'avait pas eu la support total des républicains fondateurs. Et les concurrents les plus proches, Cruz et Rubio, comprennent très vite qu'il faut qu'une d'entre eux doive quitter la course pour que l'autre se mette en concurrence avec Trump. L'autre possibilité, bien sûr, c'était de forcer Trump à aller sans avoir la majorité de l'électorat à la convention républicaine, qui ont le pouvoir de choisir un autre nominé que Trump s'il n'a pas eu la majorité. Donc c'était deux permutations très intéressantes pour les républicains pour qui veut avoir la sortie de Trump. Donc on va voir ça de suite. On avait dit aussi l'émergence des favoris démocrates, parce qu'il y avait que Clinton contre Sanders, c'était un autre événement qui s'est passé. Il y avait Sanders qui était pour l'abolition des frais de université et aussi pour combattre l'inégalité de richesse dans la population, ce qui a permis de réveiller une génération entière de jeunes qui ne sont pas très politiquement actifs en ce moment. Donc il était très populaire aussi avec les électeurs indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas démocrates ni républicains. Ils choisissent au moment donné ceux qu'ils veulent supporter. Et donc c'était avec des États tels que Minnesota, Washington et Wisconsin qu'il était populaire parce que les électeurs ne sont pas seulement des démocrates, mais ils sont aussi des indépendants. Par contre, Clinton, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de support dans les États du Sud, aussi dans les minorités et avec les femmes, bien sûr. Donc, ça lui a permis de gagner les électeurs traditionnellement démocrates dans les États tels que Texas, Floride ou encore Arizona.
C'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi pour l'émission de Parole Politicale.
Comme ce qui était dit dans tous les médias, c'est une course pour la nomination très méchante, surtout de la part des républicains. Et à la fin, on a vu que seulement les nominateurs, certains prétendants plutôt, ont pu tenir jusqu'au bout du chemin. Clinton et Trump, qu'on en avait dit avant, mais il y avait beaucoup d'arguments avant cela. Donc, on a dit qu'il y avait des opinions très controversiales de la part de Trump sur les Mexicains, les musulmans et les femmes, entre guillemets, pas très belles. Il y a aussi eu des promis de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Et il a aussi averti Ted Cruz qu'il filerait les secrets sur sa femme à tout le monde. Donc Trump, il a fait beaucoup de headlines, on va dire, sur les médias américains et aussi la comédie américaine, bien sûr, ils ont fait beaucoup de parodies sur lui. Et donc c'est quelqu'un qui est resté dans la tête des Américains et surtout dans tout le monde même la plupart de 2016. Il faut aussi voir qu'il avait créé des petits prénoms pour chacun de ses concurrents. On avait Lying Ted, ce qui était pour Ted Cruz, une parodie de la campagne de Ted qui était Trusted, c'est-à-dire foi en Ted. Donc c'est un jeu de mots très intelligent de Trump. Il y avait aussi Little Marco pour Marco Rubio, qui lui était un peu petit en taille. Crooked Hillary pour Hillary Clinton, qui fait référence à la passée très disputée, très controversielle de Hillary Clinton, que Sanders a évoqué pour sa support des individus. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a des histoires comme ça qui sortent de la part de Hillary Clinton. Il y avait aussi, par contre, des problèmes dans le parti démocrate. Donc c'était moins personnel, on va dire, ok. Mais il y a aussi eu beaucoup de controversies. C'était tout d'abord le problème des superdélégués, qui pour la plupart des supporters Clinton, ils ont supporté Clinton plutôt, je veux dire. Donc il y avait 712 superdélégués, c'est-à-dire qu'ils représentent environ 15% des votes total. Le problème vient du fait que ces superdélégués, qui sont votés par le peuple de leurs États ne votent pas vraiment dans la même manière que les populations des États. De plus, leur puissance en termes de vote donne un grand avantage, beaucoup d'élan, à le candidat dont ils préfèrent. Et dans cette élection, Sanders n'avait que 44,5, pendant que Clinton avait 570. Donc, vu qu'il ne fallait que un petit peu plus de 2000 votes, il y avait beaucoup d'élan de la part de Clinton. Donc, elle a dû avoir moins de la population pour pouvoir gagner la nomination. On va vous parler aussi des financements des campagnes, parce que Sanders, ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'accepte que des donations très petites, on va à $27. Mais il a réussi aussi à récolter 227 millions de dollars avec des petites donations, ce qui était à l'inverse que Clinton avait des investisseurs qui lui a donné des donations très larges, quelques George Soros, $7 millions, et James Simmons, $2 millions. Donc c'est vraiment une comparaison entre les deux candidats. Sanders qui est supporté par la population entière, par contre que Hillary, elle est supportée par certains individus très puissante.
Ah yes, they're off and running again, the campaign trail. And doesn't he look like himself? Ah, back in the saddle again. Roy Rogers and Buck Rogers. Rutherford B. Hayes and Gabby Hayes. Marlon Perkins and Carl Perkins. In the dead of night we've seen it all. Boy George and Draggy. Or was Maggie Thatcher, Reagan, and Drag? Maggie and Jigs, what a gig they got. That's a big problem. It's a real one. Looks like Jerry Tall. It's Jerry Mahoney and off to beat the ball. He's terrorized and jeopardized and sabotaged and sent out spies. Phantom minds and he promoted lies. All for the bottom line.
We don't need no rerun. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. We've seen all the reruns before.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette élection? C'est-à-dire, comment peut-on analyser les électeurs américains? Pourquoi ils ont choisi certains candidats et ils n'ont pas supporté d'autres? Ça, c'est la grande question. Et ce qu'on peut dire tout d'abord des élections présidentielles, c'est le fait que les électeurs sont fortement anti-establishment sur les deux côtés, sur les deux partis républicains et démocrates. Y a une frustration très grande envers les politiciens, car ils ne s'alignent pas avec les vouloirs des peuples. C'est pour cette raison que Donald Trump, il a donné une image très attractive, pour rendre l'Amérique encore plus grande. De cette même fait, Sanders, lui, il a toujours été associé avec l'illégalisation économique entre tout le monde, sur toutes les peuples américains. Il faut aussi vendre un peu de rêve, ce que Jeb Bush n'arrive pas à faire. Donc c'est une des problèmes qu'il n'a pas pu régler. Et on va dire que c'est un des nombreuses choses qui a pour cette fête qui n'a pas pu avoir la nomination républicaine que sa famille a pu avoir. Finalement, il faut aussi dire le succès de Clinton avec son expérience sur les côtés du rôle, sur les rôles plutôt, des côtés de Obama, ce qui lui rend un choix beaucoup plus prudent pour les candidats plus explosifs tels que Trump. Donc c'est un peu aussi cette fête que les Américains veulent avoir quelqu'un qui n'est pas une risque. C'est quelqu'un qui savent qu'ils vont faire le boulot, qui vont tenir le status quo à peu près pour 4 ans ensuite. Et c'est aussi ils veulent élire peut-être la première présidente des États-Unis. Il ne faut pas oublier que il n'y avait pas une femme présidente avant ce moment ici. Et pour vraiment continuer l'hommage à Obama, le premier président noir des États-Unis. Alors, revenons à la situation présente qu'on trouve aujourd'hui. Donc, c'était dans les mois de juillet que chacun des partis a eu une convention auquel ils vont annoncer leur candidat. Donc, il y avait un manque de soutien de la part de Ted Cruz pour le nominer des par des républicains Donald Trump. Donc, Donald Trump, il va représenter les républicains à cette élection 2016. Il y avait aussi John McCain et Paul Ryan, deux républicains très influentiels, qui ont eu des disputes avec Trump, mais finalement, ils l'ont supporté. Par contre, d'autres comme Mitt Romney, la nomination républicaine de 2012, lui, il refuse de supporter Trump. Du côté des démocrates, ils sont beaucoup plus unifiés autour de leur nominateur Hillary Clinton, la nomination démocrate. On a vu Obama et Sanders qui ont déjà donné leur soutien à elle. Donc c'est très important pour Hillary car elle lui permet de peut-être prendre un parti des électeurs de Sanders tant qu'avec Obama, elle a une des présidents les plus populaires dans le temps actuel. En regardant les stratégies mises en place par Clinton et Trump suite à la nomination, on va dire que Trump, il va chercher donner une image de Hillary Clinton qui n'est pas du tout fiable et qui garde des secrets qui sont contre les intérêts de la peuple américaine. À l'inverse, Clinton, elle, va plutôt démontrer que Trump est quelqu'un d'explosif, agressif et qui ne donnera pas le plus de paix au monde. Elle va aussi dire qu'il est quelqu'un de très dangereux, surtout avec les armes nucléaires sous son commande. Donc ça, c'était une chanson de la part de l'infameux Prince, qui lui est mort cette année. Donc c'est une chanson diffusée en 81 qui s'appelle Ronnie Talk to Russia. Donc c'est une chanson qui encourage le président Ronald Reagan à ouvrir les discussions avec le URSS avant la destruction complète de la Terre avec les armes telles de chaque côté de la partie de l'URSS et aussi de la part des États-Unis. Donc une référence à la guerre froide. Juste pour donner les permutations de cette élection, c'est-à-dire comment chaque candidat peut gagner l'élection, j'ai fait un petit peu de recherche internet dessus. Donc il y a, en tout, il faut gagner 270 votes électoraux pour gagner l'élection de 2016. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est le fait que Trump, ce n'est pas une républicaine traditionnelle. C'est-à-dire que les États qui votent traditionnellement pour les républicains et qui votent traditionnellement pour les démocrates, ça a complètement changé. Donc Trump, maintenant, il est plus attirant. On voit les électeurs ouvrir dans les États comme Pennsylvania, Wisconsin et même Michigan, qui sont traditionnellement démocrates. À l'inverse, ça ouvre la porte pour Clinton de gagner des États républicains traditionnellement, bien sûr, tels que Utah, qui ne sont pas de tout derrière Trump. Les États qui seront alors contestés, et essentiellement pour les deux nominés, sont Wisconsin, Pennsylvania, New Hampshire, Minnesota, Ohio, Iowa, Virginia, Florida, Michigan, Nevada, Colorado et North Carolina. Donc il y en a beaucoup et c'est ce qu'on appelle par là the swinging states, c'est-à-dire les États qui vont décider l'élection pour permettre à une nominée ou à l'autre de gagner les 270 votes électoraux qui lui nécessite pour être élu président ou présidente des États-Unis en 2016. Bien, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette émission de Paroles Politiques sur Fréquence Mistral. Merci beaucoup également à vous tous et à Emeline, bien sûr, pour avoir aidé avec la partie technique. Jeudi prochain, de 11h à midi, je serai encore avec vous en direct avec une émission sur le conflit nord-irlandais. Donc je vous laisse, je vous souhaite tous un bon week-end, un bon fin de semaine et à jeudi prochain. Merci beaucoup.
À bientôt, Jake.
Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi pour l'émission de Paroles Politiques.